Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelan, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, écoutez, je suis ravi de vous recevoir pour ce nouvel épisode, l'épisode 57. Nous recevons pour cet épisode, cette semaine, Anne-Cécile Graber. Anne-Cécile, comment vas-tu ?
Je vais bien, et toi ?
Mais écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce podcast. En plus, je pense qu'on a beaucoup de sujets à discuter ensemble. Donc, comme tu connais le format de cet épisode, ou de ce podcast principalement, nous abordons souvent le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc, nous allons démarrer par ton parcours qui, ma foi, est assez atypique. À toi la parole, Anne-Cécile.
Eh bien, merci. Alors, mon parcours a commencé à Paris. Je suis née à Paris il y a 34 ans. J'ai grandi à Paris et jusqu'à mes 10 ans à peu près, ma mère a décidé de partir vivre à la campagne. Mmh. Et donc ça a été moi ce que j'appelle mon premier choc culturel, parce que passer de la grande ville parisienne avec tout à disposition à des heures incroyables et arriver à la campagne où tout ferme à 18h, je me rappelle, on a eu plusieurs surprises. Ah mince, on va pas manger ce soir en fait parce que tout est fermé, on n'a pas fait les courses. Bon bah tant pis.
On va manger des pâtes.
On prend une pizza.
Ok. On salue nos amis parisiens et aussi les campagnes, parce que nos belles campagnes françaises, quand même, c'est aussi agréable. On peut pas tout avoir, on va dire.
Voilà. Très bien. Et chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients.
Exactement.
Et en fait, j'ai continué mes études. Enfin, si on peut parler d'études, quand on n'a pas encore passé le bac. J'ai eu mon bac au lycée en forêt, à Montargis, pour les Montargeois. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Donc, c'est dans quel coin eu... Tu nous avais dit vers Tours.
Orléans.
Très bien.
Oui, Tours-Orléans, c'est de ce côté-là de la France.
Très bien.
Et en fait, après mon bac scientifique, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai toujours eu dans ma famille des histoires de personnes qui étaient parties à l'étranger, qui avaient appris des langues. Du côté de ma mère, je crois que mon arrière-grand-père avait été pris par les Allemands et emprisonné. Il a appris l'allemand sur place. Quand ils l'ont relâché, il a été délivré par les Russes. Les Russes ont cru qu'il était allemand parce qu'il parlait tellement bien allemand qu'il ne pouvait pas être français.
Aïe.
Il s'est fait embarquer par les Russes, il a appris le russe. Il est revenu.
Okay.
Des histoires de... Donc j'ai toujours eu ces histoires de personnes qui parlaient plusieurs langues.
Mmh.
Et moi, les langues, même si j'avais fait un bac S, c'était quelque chose que je trouvais super intéressant.
Mmh.
Mais je n'avais pas forcément de talent pour ça.
Mmh.
Donc je me suis dit, allez, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et j'ai décidé de faire une école de commerce. Et j'ai fait l'ESC3, qui a changé de nom entre-temps. Je crois que c'est Champagne School of Management maintenant.
Mmh.
Et en fait, cette école de commerce nous proposait de faire un double bachelor sur 4 ans. Et la moitié du cursus était en langue étrangère.
Okay,
je crois que la première année, on avait des cours en français et en anglais. Et puis, plus on avançait dans le temps, et moins on avait de cours en français.
D'accord.
Et plus des langues en anglais.
Et tu n'avais pas de lien avec d'autres langues, puisque tu as eu un parcours franco-français, si je peux dire.
Ah ouais, moi j'ai eu un parcours franco-franchouillard.
Okay.
Je sais que ma nurse parlait le kabyle, donc apparemment j'ai parlé kabyle quand j'étais petite, mais alors j'ai aucun souvenir.
Très bien.
Et ma mère me parlait en espagnol parce qu'elle avait vécu 5 ou 6 ans, je crois, en Bolivie. Elle avait vécu plusieurs années en Bolivie.
Mm-hmm.
Et donc elle avait essayé de nous apprendre l'espagnol petit, mais nous, on est en France, on est français, on parle français.
Ouais,
enfin, bref,
il n'y avait pas de lien. Ok, mais c'est bien parce que ça a peut-être développé ton oreille pour les langues, et je pense que ça, c'est peut-être ça. Donc tu t'es retrouvé dans cette école de commerce, tu es parti pour le, j'imagine, un des semestres à l'étranger, c'est ça? Tu es partie où?
Voilà, je suis partie 6 mois à Madrid pour mon premier stage. Mmh. Donc, c'était assez. C'était ma première expérience professionnelle sur du long terme, mmh. sur 6 mois. Mmh. Je suis revenue, je parlais couramment espagnol. Et tellement bien que les Espagnols pensaient que j'étais une Espagnole qui parlait bien français. Mmh. Et je devais les corriger, leur dire non, 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 je suis française. Je parle juste l'espagnol sans accent. Et je pense que ça, c'est dû au fait que ma mère nous ait parlé en espagnol quand on était petit.
Alors moi, je dirais rien là-dessus parce que Monsieur Joe, je suis bilingue espagnol, mais l'accent français, ouais, je ne l'ai jamais enlevé. Et pourtant, j'ai vécu en Amérique latine. Donc, je peux te dire que ouais. comme quoi les cordonniers sont les moins bien chaussés.
Et je ne sais pas, mais en tout cas, quand je parle espagnol, je n'ai pas d'accent. Okay. Donc, je présume que ça vient du fait que je l'ai entendu quand j'étais petite et que je m'amusais à prononcer « rojo ».
Ouais, le fameux R gluttural, ouais, français, le R... mon père me corrigerait s'il écoute le podcast, le R espagnol roulé. Enfin, voilà. Très bien.
Voilà, ma première expérience. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un an d'études à London South Bank University, où j'ai étudié les systèmes d'information, management des systèmes d'information. Donc, c'était tout ce qui était relié à Internet. Mm-hmm. Et on avait des profs qui nous expliquaient que Twitter, enfin, un prof en particulier qui expliquait que Twitter, ça allait changer le monde un jour, que c'est que le début et qu'il fallait absolument qu'on soit tous sur Twitter. Mm-hmm. Et il nous envoyait les cours, les exos sur Twitter.
Ah ouais, quand même. Ah ouais.
Oh bah non, mais... Il utilisait les technologies à ce moment-là pour le cours. Et une de ses fameuses phrases, c'était un jour, Twitter changera le monde. Et je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, Trump qui faisait des tweets qui faisaient trembler le monde. Et donc, je me suis dit, en fait, il avait raison, le prof. Mm-hmm. Ces nouvelles technologies peuvent changer le monde. Mm-hmm. Enfin, j'ai fini par revenir en France pour finir mon bachelor. Et en sortant de mon école de commerce, j'avais fait un stage à nouveau de 6 mois dans une entreprise, et c'était une start-up. Et en finissant mon travail dans cette start-up, je m'étais dit, mais attends, j'avais déjà été 2 fois en Allemagne, j'avais découvert le principe des Pfand, ou de la consigne de bouteilles de bière. Mm-hmm. Je me dis, mais il faut qu'on fasse absolument ça en France, mais l'écologie, enfin, il faut penser au monde, on est en train de le détruire. Et donc, laver les bouteilles plutôt que d'en refaire, ça, c'est... Ouais. Ça a beaucoup plus de sens au niveau écologique. Mm-hmm. Sauf qu'il fallait changer tout le système, en fait.
De consommation.
De récupération.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et le mindset aussi, dans le sens où, je pense qu'on en avait discuté en off avant, c'est que le système de consigne avec les bouteilles de lait, par exemple, le laitier qui venait déposer, ces bouteilles-là étaient consignées, ou les yaourts dans des verres que tu rendais, ce qui existe en Allemagne, qui est utilisé, mais un peu moins. Mais moi, je sais que le cercle fermé du verre, qui est assez hallucinante en France, qui n'existe pas. Pour le vin, je crois que ça existait à une époque en Alsace, mais bon, j'invite nos auditeurs à venir nous corriger. Mais où tu ramenais tes bouteilles, moi je viens du Bordelais, donc tu ramenais tes bouteilles, tu pouvais te faire remplir les bouteilles. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être toutes ces logistiques, tu dis, de récupération, de nettoyer, de réétiquer, qui en fait a été abandonnée. Donc du coup, tu t'es dit, tu veux lancer dans le comment on appelle ça, les consignes de verre en France, et au final,
qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au final, j'ai fait mon étude de marché, j'ai interviewé beaucoup de viticulteurs, des restaurants, enfin des gens qui auraient pu faire partie du nouveau processus. Mm-hmm. J'avais même eu des échanges avec une ville, je crois que c'était Créteil, qui était pour les responsables écologie. Ils trouvaient que l'idée était bonne, sauf qu'il fallait changer tout le système. Mm-hmm. Et je me suis aperçue qu'il y avait un programme qui existait déjà dans le sud de la France. Et j'avais parlé avec eux, ils m'avaient dit non, mais il faut commencer avec un vigneron, tester avec lui. Et en fait, je me suis dit, mais je ne vais jamais réussir à gagner ma vie avec ça.
C'est clair.
Et puis c'était intéressant, mais ce n'était pas mon truc.
Ouais, et peut-être qu'il y a besoin d'une volonté politique derrière, de système. Donc c'est un investissement à très grande échelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer petit et upscaler. Donc du coup, la start-up sur la consigne du verre en France, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette idée. T'as arrêté, tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu cherchais un job ou un stage encore après?
En fait, j'ai juste communiqué avec mon réseau en disant, voilà, je parle 3 langues, j'ai fait une école de commerce, je cherche un travail, je cherche quelque chose où mes compétences peuvent être utilisées.
Et donc, tu étais à Paris.
À l'époque, je ne savais pas encore ce que je voulais faire.
Okay.
Je savais ce que je ne voulais pas faire.
Ça, c'est déjà pas mal.
Sur l'orientation. Et je suis arrivée à l'OCDE. pour un stage au début, et ils ont fini par m'embaucher. Et en fait, à l'OCDE, j'ai travaillé avec des équipes interculturelles où en fait, j'étais la seule française. On travaillait en anglais. C'était assez impressionnant
D'accord.
d'arriver dans ce monde que je connaissais pas, en fait,
Ouais,
encore une fois.
et qui en plus pour enfin moi c'est pareil quand on voit l'OCDE je pense que pour nos auditeurs aussi on voit ça comme une supra-organisation qui fait des études sur comment sera le monde en 2050, les taxis volants ou les infrastructures ou la redistribution des biens. Donc je pense que c'est est-ce que tu peux nous confirmer, c'est un peu ce que tu as fait, tu m'avais marqué que tu avais fait donc un stage dans le service des taxes. Ou dans la
Ouais.
réflexion, un groupe de travail sur les taxes, ça peut paraître un peu, comment dire, sec, comment dire ça en français, je perds mon français. Quand on parle de taxes, c'est pas super sexy, quoi. C'était quoi l'idée derrière?
En fait, ce qui était intéressant, c'est que l'OCDE, c'est donc un regroupement de 27 pays, il y a peut-être que ça a augmenté entre-temps, qui partagent les bonnes pratiques et qui disent, bah, nous, en matière de taxes, on fait comme ça et voilà les résultats. Et donc, il y a des comparaisons entre les différentes méthodes utilisées. Et au travers de ces analyses de bah, comment ça fonctionne vraiment dans la vraie vie, ils proposent des suggestions pour améliorer le système de taxes. Et là où j'étais, leur idée, c'était de créer un système de taxes international. Ils sont encore en train de travailler dessus. Et j'ai eu l'opportunité d'aider à organiser une conférence sur les taxes, sur la taxation internationale, qui a eu lieu à New Delhi.
En Inde.
Et donc, c'est en Inde, voilà, en Inde, à New Delhi, et c'était censé être un programme où moi je soutenais depuis la France, et puis les organisateurs, donc les chefs de mon équipe, partaient en Inde, et en fait, à la fin, je suis partie avec eux. J'ai eu vraiment la chance qu'ils acceptent de financer mon voyage, parce qu'il y a toujours les histoires de financement, et j'ai pu être à New Delhi pendant la conférence, et je suis restée un peu plus longtemps après, quelques jours, hein, j'ai dû rester une semaine de plus, et j'ai pu découvrir l'Inde. Et ça, c'est bon, il y a de quoi faire un podcast là-dessus, mais j'ai découvert l'Inde comme jamais. C'est magnifique.
Tu disais donc à l'OCDE, donc c'est un melting pot de profils différents avec des idées, des mindsets complètement différents qui essayent de faire quelque chose en commun, de changer le monde, hein, même si ça sonne des fois utopiste dans des situations comme on vit actuellement, donc ça porte un certain espoir. Ce côté melting pot, comment ça fonctionne tous ces gens-là? Tu t'avais souligné qu'il y avait une problématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des mindsets, des idées, mais on n'arrive pas à les exprimer. C'est bien ça ce que tu m'avais indiqué.
Ben, en fait, moi, la vision et la mission de l'OCDE m'avaient franchement passionnée et je m'étais dit, waouh, travailler pour cette organisation, c'est quelque chose de magnifique parce qu'on essaie de contribuer à un monde meilleur. Chacun à sa manière, chacun avec ses perceptions, ses croyances. Et en fait, le travail entre nous dans les équipes se passait plutôt bien. Sauf que moi, je me suis aperçue, parce que je suis très curieuse et je pose toujours des questions, genre, mais pourquoi ça marche pas? Et je dis, mais pourquoi on fait pas ça comme ça? Et pourquoi on fait pas ça comme ça? Et pourquoi vous faites ça comme ça? Et je me suis aperçue, en fait, qu'il y avait la réponse était toujours, on a toujours fait ça comme ça. Ça, c'est comme ça.
Tiens, tiens.
Ça, c'est comme ça, ça ne changera pas. J'ai dit, bah si, ça peut changer, il suffit qu'on change ça, ça et ça. Enfin, je vois pas le problème. Et moi, c'est ça qui m'a frustrée à l'OCDE. C'était de voir qu'il y avait
Potentiel.
un potentiel incroyable de faire des choses pour vraiment faire bouger les choses, mais qu'il y avait une sorte d'inertie qui était due à l'organisation.
OK.
Et dans l'organisation du travail, de qui a le droit de choisir et qui a le droit de prendre des décisions, et comment on fait quand quelqu'un n'est malheureusement pas compétent ou pas au bon endroit, parce que des fois, c'est la promotion du plus ancien et pas forcément du plus compétent. Et enfin, il y avait plein de choses qui fait que ça marchait pas pour les humains, quoi. C'était pas optimal.
Donc du
Et
coup
moi, ça m'a vraiment. Je me suis posé plein de questions, quoi.
Et donc du coup ça t'a amené à donc tu t'es employé à l'OCDE, tu t'es ou tu étais en stage chez eux. T'étais employé, hein,
Ben,
c'est ça?
J'ai commencé en stage et en fait, à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un poste. Et j'ai pris le poste parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est une belle organisation, peut-être que, y a une possibilité pour moi d'évoluer et de faire autre chose. Et en fait, de voir à quel point les choses ne pouvaient pas avancer malgré la recherche et les tentatives que j'avais pu faire pour proposer des améliorations, après, c'était à mon niveau, donc c'était pas
Oui,
non plus
bien sûr. Mais bon.
énorme. Mais je voyais que je faisais face à un mur et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on fait pour changer ça? Et en fait, ça m'a motivée pour faire mon master. Et donc, j'ai fait un master aux États-Unis, à George Washington University,
Wow.
sur les sciences de l'organisation, donc Organizational Sciences. Et c'est vraiment de la science. C'est-à-dire que je suis arrivée là-bas et on a étudié tous les aspects qui font qu'une organisation va fonctionner ou pas. Donc, le leadership, la communication, la gestion des processus, la stratégie, la gestion du changement, la gestion des talents, de la performance. Et donc, tout ce qui fait qu'une organisation va
Bien
se
fonctionner.
développer ou se casser la figure.
Et donc vraiment donc une approche très pragmatique de toutes ces thématiques sans dire, je pense que tu me l'avais indiqué avant, c'est-à-dire que mettre l'humain au centre et voir quels sont les éléments qui empêchent une organisation de se développer ou de bien fonctionner en décortiquant factuellement toutes les problématiques qu'il y a dedans, c'est-à-dire comme tu viens de le dire, on a toujours fait comme ça, ou il faut remplir tel formulaire, ou tel système fonctionne, mais pourquoi quand j'ai besoin de, j'en sais rien, tel et tel équipement, il faut qu'il y ait trois ou quatre signatures, et que ça
C'est ça.
frustre les gens et ça bloque tout. Donc c'est ça, hein.
Et c'est ça, et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce master, c'est que tout est basé. 90% de ce que j'ai appris est basé sur des études qui ont été faites sur bah, qu'est-ce qui se passe quand on change tel facteur, qu'est-ce qui se passe quand on se met à donner des feedbacks plus positifs, qu'est-ce qui se passe quand on change l'intensité de la lumière,
Ah ouais.
qu'est-ce qui se passe. Non. Ah non, mais il y a des études et ça, il y a des trucs, c'est juste passionnant. Moi, j'invite tout le monde à faire ce master parce que ça change la perception du monde.
de pub.
Mais en fait, il y avait des études, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui se passe si on change la luminosité dans les usines? Et ils ont fait plusieurs tests et ils se sont aperçus qu'en fait, le fait de changer la lumière améliorait les conditions de travail, mais que ce qui faisait que les gens travaillaient mieux, c'était qu'ils avaient l'impression qu'on pensait à eux.
Ouais, donc
Ils
mettre
avaient
l'humain au centre.
l'impression qu'on prenait soin d'eux.
Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est testé un peu partout dans les industries aussi, c'est-à-dire, bon, sans aller à l'extrême en disant les bureaux lumineux, c'est vrai, c'est très bien. Après, l'extrême, aller à des bureaux à la Google, c'est pas applicable partout. Je veux dire, une usine qui fait des grosses pièces métalliques, ça va être difficile de tout peindre en bariolé, si je peux me permettre. Parce que voilà, c'est de l'industrie lourde, mais c'est vrai que je viens là-dessus, c'est-à-dire le meilleur exemple qu'on peut voir est la transformation, la digitalisation. Je pense que le Covid là-dessus a mis un coup d'accélérateur aux sociétés dans le sens où on interdisait aux gens de travailler de chez eux parce qu'on disait le besoin de les avoir tous au bureau, et on s'est rendu compte, bon, c'est sûr que c'est pas applicable partout, hein, je veux pas généraliser, mais de donner cette possibilité, je pense qu'il y aura un après, c'est-à-dire. Le mix, ce qu'on parle de travail hybride, une grosse thématique, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne passe pas dans ce modèle de dire ah ben moi j'ai aucun problème à travailler chez moi, j'ai pas besoin de voir les gens, d'aller au bureau pour certains métiers, pour certains caractères, pour certaines industries. Donc au final, c'est de mettre l'humain au centre de au centre, à nouveau au centre de l'intérêt de l'entreprise.
Oui,
Ok.
parce qu'en fait, l'idée là par rapport au travail hybride, les gens cherchent à créer une règle qui fonctionne pour tout le monde. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui peuvent très bien se concentrer en home office parce qu'ils sont seuls, ils ont un bureau à la maison et ils peuvent vraiment faire une séparation. Et on a besoin de séparer le travail enfin, de la vie privée. C'est bon, on a besoin de se ressourcer. Et il y a des gens qui n'ont pas la capacité ou c'est pas possible
Ou
parce
les
qu'ils ont
moyens,
des enfants
ou
à
des
la maison, parce
enfants.
qu'ils n'ont pas de bureau. Donc, en fait, c'est de trouver des solutions individuelles à des problèmes organisationnel. Comment fait-on pour que chacun soit dans des conditions de travail optimales sans oublier le groupe? Et ça, en fait, c'est très individuel. Chaque entreprise devrait être dans la recherche d'une solution unique qui lui correspond. Comme tu disais, une usine, si, imagine qu'on se mette à peindre toutes les usines avec des murs oranges parce qu'il y a une étude qui a montré que les murs oranges, ça rendait plus, je sais
Productif,
pas,
productif.
plus productif. Sauf que peut-être que le orange fait que dans cette usine, ça a créé plus de dangers qu'autre chose. Donc c'est toujours, il faut toujours tout remettre en question. Dire, OK, il y a cette étude, mais dans notre situation, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est en fait un travail que je fais. D'ailleurs, après mon master, je suis arrivée en Allemagne. Mais c'est de se dire, quel est le véritable problème que nous avons? Enfin, c'est quoi le problème?
Qu'est-ce qu'on veut
Et
changer?
comment on le résout? Et c'est pas comment moi, le chef d'entreprise, je décide pour tout le monde, c'est comment l'organisation, donc les personnes touchées par le problème, vont pouvoir mettre en place des solutions qui vont correspondre à leurs besoins et qui vont leur permettre d'atteindre l'objectif de l'entreprise. Parce qu'on n'est pas dans des entreprises juste pour se faire plaisir, on ne travaille pas parce que il faut travailler. Les chefs d'entreprise ont monté des entreprises parce qu'ils ont perçu un besoin de services
Ou de
ou
produits.
de produits et qui veulent, ils ont entrepris, ils se sont dit, tiens, moi, je vais répondre à ce besoin. Ou alors ils ont repris une entreprise. Enfin, il y a plusieurs manières d'arriver au poste de chef d'entreprise, mais leur but à eux, c'est de satisfaire un besoin et que pour satisfaire ce besoin, les gens vont acheter le service ou le produit. Et l'entreprise, son rôle, c'est de tout faire pour que le besoin du client soit rempli, enfin, soit satisfait.
Ouais. Alors c'est bien parce que j'aimerais revenir sur la thématique où tu dis de remettre les gens pour décider pour une certaine problématique, c'est-à-dire c'est pas le patron ou le grand manager qui décide et on va faire comme ça, mais et c'est ce que j'avais vu sur certains coachings, dans le sens où il y a un problème dans une équipe par exemple, et on reprend toute cette équipe-là et on ne propose pas, on va dire il y a trois solutions, on fait ça, solution A, solution B, solution C. Non, en fait, on met tous ces gens ensemble. Et c'est à eux d'apporter la solution parce que c'est eux qui vont faire le cheminement vers une solution qu'ils ont trouvée par eux-mêmes et qui vont, eux, l'appliquer puisque c'est eux qui l'ont trouvée cette solution, donc elle est applicable. Et je pense que c'est ce problem solving, hein, cette approche-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile parce que les gens, du coup, s'engagent à essayer de résoudre leurs problématiques sans avoir comment dire, une solution qui est imposée de l'extérieur. C'est un peu.
Et ça, en fait, c'est un gros changement qui est en train d'avoir lieu dans le monde de l'entreprise. Et je pense que tout s'explique. Pourquoi on en arrive à des entreprises où la décision arrive depuis le top management et en fait est
Depuis bas,
imposée vers le bas, c'est qu'il faut se rappeler que l'industrialisation, c'était il y a 160 ans. Et il y a 160 ans, il y avait des gens qui avaient des compétences plus élevées que les travailleurs dans les usines et qui, en fait, il n'y avait pas Internet. Donc l'information était concentrée dans les mains d'une personne et cette personne était dans la capacité de comprendre le monde qui était beaucoup moins complexe que maintenant. Donc c'était logique à ce moment-là qu'on ait une organisation où une personne décide pour le reste.
Même.
C'était normal. Sauf qu'on a Internet qui arrive entre-temps, le niveau d'études a augmenté, enfin, il y a de plus en plus de jeunes qui ont au moins un bachelor et donc on se retrouve avec des gens qui ont accès aux informations, ou en tout cas qui théoriquement pourraient avoir accès aux informations sans aucun problème et de manière instantanée, qui ont un certain niveau d'études. Donc on leur a quand même dit, ton cerveau, tu sais t'en servir, ils veulent plus se laisser dire quoi faire. Et le monde est devenu de plus en plus complexe. Et vu la situation actuelle, ça va devenir encore plus complexe. Plus ça va aller, plus ça va être complexe. Donc avoir une personne qui décide pour tout le monde, ce n'est juste plus possible. Ça va plus marcher. Et donc, on est en train de. Enfin, quand je dis on, c'est les entreprises, les chefs d'entreprise, tout le monde. On est en recherche d'une autre manière de travailler ensemble.
Donc, un paradigme du changement du management, peut-être, dans le sens. Moi, j'aimais bien comparer, parce que j'ai été souvent dans le franco-allemand, peut-être partir sur ce sujet-là, c'est-à-dire que, comment dire, le cercle de décision, la prise de décision est différente d'un point de vue culturel. Comme tu l'as
Oui.
dit, top-to-down, c'est décidé à tel management, et il faut l'appliquer, et ensuite, entre guillemets, aveuglement, bon, bien sûr, il peut y avoir toujours des discussions, des réadaptations, et ça, c'est le côté français. Le côté allemand, lorsqu'il y a une décision qui est prise, donc il y a top-to-down, mais il y a une espèce de cercle de décision où tout le monde est impliqué dedans, ça donne une certaine inertie pour la prise de décision. C'est-à-dire, je donne un exemple un peu caricatural. On décide de changer une approche d'une méthodologie à haut niveau dans une société, et en fait, Tout le monde est invité à donner son mot, que ce soit depuis le patron, l'opérationnel, l'assistante. Et au final, on arrive à un niveau de consensus. Donc, la prise de décision sur le consensus et non pas sur cascadement de l'information. C'est-à-dire, OK, c'est le N plus X qui a décidé et c'est applicable ainsi de suite. Même si, et on laisse voir l'évolution de ce sujet-là. Donc, toi, tu dis maintenant, l'approche est d'un point de vue. On a l'accès à la communication, aux informations qui est très très répandue. Des gens qui. On n'est plus dans un modèle top-to-down, mais l'implication de tout un chacun d'apporter son point de vue ou ses propositions, c'est-à-dire la parole ouverte à tout le monde. Mais c'est difficilement
Voilà.
gérable quand même.
Bah c'est ça le truc qui est super passionnant, c'est que c'est pas que c'est moins gérable, ça se gère juste autrement. Et là, il y a des entreprises qui sont déjà très en avance par rapport à cette question du partage de pouvoir, parce que finalement, ce changement organisationnel, c'est un changement de répartition du pouvoir, de qui décide, qui a le droit de faire quoi. Donc, c'est des questions sur les rôles, les responsabilités, les conséquences de notre action ou non-action. L'important, c'est de se rappeler pourquoi on est là. Donc, parce que je travaille avec des équipes qui, des fois, s'arrachent les cheveux presque, parce que ils n'arrivent plus à travailler ensemble. Parce qu'en fait, le monde est devenu très complexe. Ils savent plus qui doit prendre quelle décision. Leur chef leur demande de faire des trucs. Ils disent, oui, ça n'a pas de sens. On peut pas faire ça comme ça. Il y a un mélange de différents symptômes qui font que ça crée un gros problème.
Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que. Alors, il y a peut-être la problématique, je vais peut-être reformuler. C'est-à-dire qu'on a une source très importante d'informations variées, la rapidité de la prise de décision, le questionnement des employés ou des gens invités à la prise de décision. Donc, la question, c'est-à-dire une transformation des prises de décision d'une société, et se dire, comme tu l'as dit, les gens se posent la question en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Alors, est-ce que la thématique est aussi, et je pense que c'est là-dessus où on va venir un peu ton rôle de coach ou de conseiller en entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a besoin d'avoir un réalignement des valeurs des employés ou d'une organisation avec les valeurs d'une entreprise. Est-ce que c'est peut-être là le questionnement de se dire, bon, ok, les choses ont évolué, ont changé. On peut dire actuellement, entre le Covid, les histoires de guerre et de crise économique, c'est-à-dire que de repenser, peut-être se dire, bon, ce qui fonctionnait avant, peut-être actuellement, doit évoluer.
Et c'est même pas peut-être. C'est que si ça
Doit.
évolue pas, les entreprises vont s'écraser.
Comme tout organisme, même biologique, c'est-à-dire que si on
Ouais.
s'adapte pas, la capacité d'adaptation et de transformation, si tu t'adaptes pas, tu meurs. Prenons l'exemple de Nokia ou de Kodak. Je pense que j'aime bien cet exemple-là parce que c'est. Il y en a eu d'autres industries qui, on va dire, la transformation dans les taxis aussi. Bon, après, il y a toujours. Les gagnants et perdants, il y a les thématiques de OK, est-ce que tout changement est bon? Mais bon, on part un peu en philosophie. J'espère que nos auditeurs nous suivent encore. C'est super passionnant. Je te remercie beaucoup, Anne-Cécile, pour ces thématiques parce que je pense que ça va apporter à nos auditeurs l'idée aussi d'entrepreneur. Ce questionnement est quand même assez général et je trouve que c'est très bien de venir partager ces idées ou ces visions-là. Donc moi j'aimerais revenir un peu plus sur ton activité parce que tu as, comme on l'a dit, un parcours école de commerce, quelqu'un de scientifique, fait S aussi. Bon, je suis resté quand même dans la technique. Bon, maintenant je suis dans les sales, donc c'est plus trop. Il y a peut-être d'autres méthodes à appliquer là-dedans. De partir dans l'économie, mais tout en gardant ce côté approche scientifique. Tu as accompagné donc à l'OCDE, tu as fait plusieurs différentes activités et maintenant puisque c'est un peu quand même un peu le but, tu viens plutôt dans tout ce qui est la transformation des sociétés ou des entreprises, c'est ça?
C'est
Parle.
ça, et en fait, pour expliquer mon parcours, comment je suis arrivée de l'OCDE à me lancer en tant que consultante en changement et en développement organisationnel. En fait, il y a 8 ans maintenant, à peu près, ouais, je suis arrivée en 2013, fin 2013 en Allemagne. Et ma première étape, ça a été d'apprendre l'allemand.
Oui.
Et j'ai travaillé dans différentes entreprises. Au début, j'étais en interne dans une petite entreprise. Enfin, petite, il y avait 200 employés, donc c'est pas si petit que ça. Et en fait, j'ai aidé le bureau qui était composé de 5 personnes à mieux s'organiser et surtout à passer du travail sur le, enfin, sur des documents papier au travail avec Excel. Donc, c'était une première étape de digitalisation.
Oui, le grand sujet.
Et c'est un grand sujet, mais c'est un sujet où je pense que beaucoup d'entreprises n'osent pas dire qu'elles travaillent encore avec le papier, qu'elles font des échanges par email, qu'elles font certains trucs sur Internet parce que ben, maintenant le banking, c'est enfin la banque, c'est sur Internet et on peut plus faire, c'est beaucoup moins facile de faire des choses par téléphone, par exemple, mais que leurs processus à eux sont toujours fait par papier, c'est-à-dire un truc est imprimé, on écrit des trucs dedans, on passe le papier à quelqu'un, enfin. Et donc moi j'avais aidé cette entreprise à passer d'un système tout est fait sur papier à utiliser un document Excel pour faciliter le travail et surtout l'accélérer parce que faire des calculs à la main sur une vingtaine de pages, bah, ça amène à 50% d'erreurs, faut toujours recorriger, enfin bref. Et ça c'était ma première expérience en Allemagne et j'ai enfin ensuite, travaillé pendant 2 ans en tant que consultante IT Beraterin, donc consultante en informatique chez Volkswagen.
Ah ouais.
Et où là, j'ai vu un autre mastodonte, hein, c'est dans le même style mastodonte OCDE, là c'était le mastodonte Volkswagen.
Oh, quand
Ben
ça allume,
voilà,
hein.
le monstre. Et ce qui est très triste, à nouveau, c'était de voir des gens très talentueux, des gens qui étaient loin d'être bêtes, être bloqués dans leur capacité à faire bouger les choses parce que on l'a toujours fait comme ça. Et c'était, moi, je faisais des analyses de processus et je leur disais, bon, vous me demandez d'analyser ce processus, mais en fait, ce qui serait bien, c'est d'analyser tous les processus parce que mon processus, c'est un mini truc dans la machine Volkswagen. Enfin, ça sert. Enfin, je fais mon travail, ça sert à quelque chose. Mais si vous voulez vraiment changer les choses, faut tout regarder. Faut regarder l'entreprise en entier. Et c'était très frustrant pour moi. Et en plus, on n'avait pas du tout. Enfin, ils ont. C'est ma perception. Peut-être que je suis tombée au mauvais endroit.
Et donc tu t'es retrouvé là-dedans, à nouveau un peu frustré en disant, bon voilà, je veux changer le système et tu ne peux pas. Donc du coup, tu es parti ou comment ça s'est passé?
Bah en fait, ouais, j'ai fini par partir parce qu'en plus, moi, je vis dans le sud de l'Allemagne, donc vers Stuttgart. Et ça me. Personnellement, je passais plus de temps à Volkswagen, enfin à Wolfsburg, pardon,
Wolfsburg.
que chez moi. Et ça me correspond. J'avais pas l'impression d'avoir l'impact que je voulais avoir. Donc, j'ai changé et je suis passée dans une entreprise qui faisait du développement organisationnel. Donc, en allemand, c'est Organisationsentwicklung. Et c'est ce qui ressemble plus aux Organizational Sciences que j'avais fait, moi, que j'avais étudié.
Donc un
Et
alignement
en
sur tes
fait,
valeurs. On revient au
voilà,
sujet.
sur mes valeurs, avec une équipe super sympa, en plus, qui m'a bien accueillie. Ils ont été très chaleureux. Et ils m'ont donné l'opportunité de me former à la modération systémique. Et en fait, au bout d'un an, j'avais un contrat d'un an, et au bout d'un an, ils n'ont pas pu me garder pour diverses raisons. Mais on est d'ailleurs resté en très bon contact parce que je fais des projets pour eux maintenant en tant
Comme
que
quoi.
travailleur autorine. Et en fait, après cette année à travailler avec eux, à découvrir en fait des méthodes de travail en équipe, donc pour faire appel à l'intelligence collective. Donc ça, moi, c'est mon dada. Je me suis retrouvée un an au chômage et en fait j'ai profité de cette année de chômage pour me former au coaching, pour faire une formation de formateur, donc train the trainer. Et en fait j'ai cumulé les compétences nécessaires pour pouvoir moi-même accompagner des gens dans leur processus de changement. Puisque moi j'avais déjà, enfin j'ai la théorie de mon master. Et j'ai commencé donc à utiliser ces compétences avec cette entreprise qui m'avait pris pendant un an. Et j'ai décidé de me lancer au bout d'un an de chômage parce que j'avais envie, à 21 ans, j'avais dit un jour je monterai ma boîte. Et là, je me retrouvais à presque un an de chômage, à pas trouver de boulot, à avoir des super interviews où je me disais ça y est, je l'ai, ça y est, je l'ai. Et puis il y avait toujours quelqu'un d'autre qui était prêt à ma place. Je fais bon ben, ok, si personne ne peut m'embaucher, je vais créer mon propre boulot. Et je me suis lancée 2 semaines avant le premier lockdown en 2020. Donc c'était il y a 3 ans à peu près, un peu plus de 3 ans maintenant, enfin presque 3 ans, enfin bref, moi et les maths. Et Et en fait, je me suis lancée au moment où Corona nous a fait le plaisir de montrer le bout de son nez en Europe. Et ma première année a été un véritable challenge parce que il fallait que je trouve des clients sans pouvoir aller les voir. Et en fait, avec le temps, j'ai pris contact avec plein de personnes sur LinkedIn. Moi, je conseille à toute personne qui ne connaît personne dans sa région en Allemagne de prendre contact avec tous les francophones sur LinkedIn. Et de dire, voilà, je suis française. C'est ce que j'ai fait et j'ai rencontré des gens super sympas. Des gens avec qui j'ai fait des projets en plus, enfin avec qui on a fait des projets ensemble, des gens qui sont devenus des amis.
Bah écoute, tu nous as
Et
contacté
donc,
comme ça aussi, hein, Monsieur Joe, et
voilà.
j'étais ravi de. Et puis, on a des connaissances en commun, et je pense que c'est très important, en fait, l'approche de toujours. Et je pense que tu as cette approche-là, c'est pas pour rien que tu es venu me contacter, c'est-à-dire poser des questions, et il y a des choses qu'on ne sait pas faire, toujours savoir demander de l'aide, parce que les gens sont toujours prêts à aider, en fait. Aider à partager, et je pense que c'est aussi le but, hein, de ce podcast, hein. On discute beaucoup, c'est très long des fois, mais ça fait rien. On prend le temps, parce qu'on fait découvrir des gens, et au final, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut-être peut te conseiller et qui va être un accélérateur. C'est ce qui t'est arrivé, en fait.
Oui. Et moi, c'est vraiment le réseau m'a vraiment aidé. Et ça, c'est vraiment le conseil numéro un. Faites grandir votre réseau. Quand vous venez d'arriver en Allemagne et que vous connaissez pas grand monde,
Ou ailleurs.
contactez des gens qui ont probablement une histoire similaire. Et probablement que les Français qui sont en Allemagne sont arrivés à un moment en Allemagne et ont eu aussi cette difficulté des premiers mois, de la première année. Pour moi, c'était aussi l'aspect, c'est ma première année en tant que, enfin, c'était ma première année en tant qu'indépendante. Et de savoir demander à d'autres, dire et toi, tes tarifs, c'est comment? Parce que moi, je fais comme
Aucune
ça, mais
idée
ça
ou ceci,
marche.
ouais. Bah alors j'aimerais
Voilà,
bien
faut
faire un petit
aller à
coup de...
côté de la plaque.
Ouais, j'aimerais bien faire un petit coup de pub là-dessus, parce que dans le sens, on a interviewé pas mal de gens, et j'ai vu que tu es aussi en réseau avec eux. Je voulais leur faire un clin d'œil à Anne-Christelle d'Emploi Allemagne, Emploi Allemagne, hein, je crois qu'ils sont à l'épisode 41, qui tu dois connaître aussi. Il y a beaucoup d'associations, il n'y a pas que LinkedIn, mais il y a beaucoup d'associations dans les villes où vous êtes. Bon, le Covid, le bon côté, je vais dire, de cela, c'est que on a explosé les frontières géographiques, les limites géographiques, où la digitalisation, en fait, c'est quand même toujours des humains, c'est peut-être derrière un écran, mais en étant authentique, en posant les questions, les gens sont toujours prêts à vous remettre en relation. Quelqu'un connaît quelqu'un qui peut vous aider. Moi, je pense aussi à Véronique Boursier qui était passée. On en avait discuté, je crois, à l'épisode 22. Plutôt, on parlait de son activité dans le SAS, mais qui, en fait, elle manage, je ne sais pas si on peut dire manager ou modère, des groupes sur Facebook d'entrepreneurs francophones. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil. Véronique, un petit bonjour aussi au passage, si tu nous écoutes. Et il y a plein de petits groupes. Elle a commencé ces groupes-là dans le sens où elle est indépendante. Elle avait besoin, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et on pose des questions. Donc c'est un peu, moi j'aimerais dire, le Facebook, c'est un peu l'époque des news groups. Pour ceux qui connaissent l'origine d'Internet, où tu allais sur des forums, poser des questions. Bon, il y avait un côté anonymat, mais au final, je pense que c'est le monde digital et la partie d'une personne, ta partie virtuelle. Et ces réseaux-là, il faut utiliser-les, il faut oser les poser les questions. Moi, je pense que au début de cette année, je disais souvent sur ce podcast, oser, oser, oser. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Il faut aller poser des questions, et ça va surtout dans les phases où vous ne trouvez pas la solution par vous-même, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà eu ce problème similaire. Excuse-moi,
Et même,
Anne-Cécile, pour cette digression.
mais je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'il a peur d'aller vers l'autre quand on ne le connaît pas. Je me dis, moi, ce qui m'a aidé à surmonter cette peur ou cette angoisse de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'était de me dire, dans le meilleur des cas, j'ai quelqu'un qui va vouloir m'aider et ça va peut-être m'ouvrir une porte que j'aurais mais jamais imaginé que cette porte existait. Et dans le pire des cas, je tombe sur quelqu'un qui répond pas, parce qu'en général, les gens répondent pas sur LinkedIn.
Ouais, ils sont pas
Ou s'il
fini.
me répond méchamment, je me dis, c'est une personne avec qui j'aurais de toute façon pas eu envie d'échanger. Donc,
Ouais,
c'est pas. C'est
ouais, mais
plutôt bien de le savoir.
alors c'est ça qui est génial, parce que je veux faire quand même, je veux revenir dessus. Quand tu m'as contacté, je trouvais ça super. Bon, après, Je pense que t'es un peu comme moi, t'es pas une personne introvertie. Mais bon, le d'être derrière un écran, ça aide aussi les introvertis à aller s'ouvrir et poser des questions. Comme tu l'as dit, moi je trouve ça génial dans le sens où j'ai vu que tu m'avais contacté et je me posais la question. Bon, ok, je me doutais qu'il y avait quelque chose avec le franco-allemand par rapport à son activité. Mais de dire, bon, ok, ça t'intéresse, on en discute, bien sûr, avec toutes les précautions, en disant, bon. Après, les gens ne sont pas nécessairement tous des psychopathes derrière leur écran. Mais en échangeant et se dire, voilà, et j'ai adoré quand tu as dit, je sais plus, tu avais écrit, tu as dit, ouais, peut-être je suis ouvert à des échanges, peut-être développer des nouveaux projets ou des discussions passionnantes. Et voilà, tu vois, c'est enregistré, c'est sur la bande, comme on dirait dans une autre époque. C'est dans la boîte. Et vraiment, je t'en remercie là-dessus parce que c'est, tu vois. Le fait d'être coach, de peut-être vendre un produit, ou c'est pas toujours ce besoin de vendre un service, puisqu'au final, les gens viennent d'abord pour un partage, et je pense que c'était ça le plus important. Et je t'en remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir osé.
Et d'ailleurs, ce que je trouve important, c'est et que j'apprends en fait à vivre de plus en plus, c'est que moi, je veux rencontrer des gens. C'est de rencontrer des personnes. Et si en plus je peux les aider et qu'ils peuvent travailler avec moi, bah pour moi, c'est le jackpot. Mais mon idée, c'est quand je vais sur LinkedIn et que j'ajoute quelqu'un, c'est de me dire, bah, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui a une vie super passionnante ou qui a des thèmes où on a des thèmes en commun et on va pouvoir avoir des échanges et refaire le monde. Vu que mon truc, c'est comment changer le monde, eh bien, j'adore.
Bienvenue dans
Et
l'équipe.
ça, je crois que c'est le monde. Des changeurs,
Ouais.
des changeurs de monde.
Non mais c'est très bien et regarde mon podcast au début quand j'ai démarré je me suis dit mais pourquoi le démarrer et mon idée c'était bon écoute t'as un certain réseau et au final j'ai rencontré si on peut dire rencontré sur LinkedIn des gens qui sont venus vers moi ou en les suivant ce qu'ils proposaient il y a ces histoires de valeur et je me suis dit bon ça vous intéresse écoutez ce qu'on fait ça vous engage à rien ça vous venez partager une expérience et au fait c'est devenu des amis des partenaires des gens avec qui on avance sur des sujets, on crée une certaine communauté. Et je pense que c'est super important parce qu'il y a en fait, à la fin, on est que des humains et le besoin de communication et d'échanger est là. On est des animaux
Oui.
sociaux. Donc voilà pour
Et
un peu
c'est même
la conclusion. Je voudrais pas arrêter cet échange super intéressant, mais dans la peur que nos auditeurs soient se sont endormis devant leur iPod, je sais pas si ça existe encore. Au passage, je pense qu'on pourra retrouver ça aussi cet épisode sur YouTube à l'avenir. Je vais essayer de le mettre. J'aimerais un peu, peut-être une dernière question pour la route. Comment on peut te retrouver, Anne-Cécile, ou sur ton activité plus de coach, parce qu'on a parlé un peu indirectement, mais pas. Comment on peut te
Oui.
retrouver?
Alors la manière la plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn.
Oui.
Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie. Donc c'est Anne-Cécile Grabert, ou sinon il y a mon site internet acgrabert.com qui est donc en trois langues. Et je voulais juste faire une correction. Je ne suis pas coach, je suis consultante.
Ah, pardon.
Le rôle de coach, c'est vraiment plus une approche individuelle, et moi j'ai une approche plus de groupe. Je travaille aussi quand il est nécessaire avec les individus, mais je travaille avec les équipes, avec les groupes.
D'accord.
Donc c'est coach, facilitation, et on peut vraiment me contacter sur LinkedIn, je réponds, m'envoyer un mail, c'est contact@acgrabert.com. Et voilà, moi je suis ouverte à toute conversation.
Ok, et on le voit aussi sur ton site, j'ai jeté un coup d'œil, il est vraiment très bien, en plus en trois langues, respect, bravo. Un dernier conseil à nos auditeurs, les entrepreneurs qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais?
Bah, lancez-vous, mais et faites-vous accompagner. Laissez-vous aider par des gens qui ont les compétences qui vous manquent. Par exemple, mon site internet, je l'ai fait avec Laetitia, qui est une Française qui vit à Berlin. Et bah, vous n'avez pas vu mon site avant. C'est
Ouais,
10 fois mieux.
et non, il est super. Ah, bah, je me disais aussi, il est vraiment professionnel. J'ai pas fait de site, mais bah, écoute, tu vois, comme quoi, très bien. Bah, écoute,
Et un
merci.
jour, tu as besoin.
Pardon?
J'ai des contacts.
Il n'y a pas de problème, on est preneur. S'ils ont venu, en plus, tu pourras aller dire à Laetitia si ça l'intéresse de venir discuter. Monsieur Joe est
Oui.
toujours ouvert pour découvrir encore un nouveau parcours. Merci à toi, Anne-Cécile. Ce fut un long épisode super intéressant. Il y aura peut-être une suite, qui sait, hein. Je pense que c'est, il y a encore d'autres thématiques à aborder. On n'est pas allé dans les détails des conseils en entreprise ou aux entrepreneurs. Écoute, c'est génial. Merci à toi. Je te dis à bientôt.
Oui, à bientôt et merci beaucoup pour ce bel échange.
Merci à toi. Ciao.
Ciao.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 57e épisode avec Anne-Cécile Graber vous a plu. Vous la retrouvez, comme elle l'a indiqué, sur LinkedIn en cherchant Anne-Cécile Graber ou sur son site acgraber.com, Graber, G-R-A-B-E-R. Je vous invite aussi, donc, comme on a entendu, d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui se lancent, qui ont envie de venir partager leur expérience, leur vécu, de venir nous contacter, Monsieur Joe, donc soit par le blog monsieurjoel.blogspot.com ou en me contactant, Joël Leland, sur LinkedIn, en m'envoyant un message. Je serai ravi de vous lire et prêt à discuter avec vous après pour un enregistrement, qui sait. Merci à vous et donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout... Restez curieux. Ah oui, j'oublie tout le temps. Si vous nous suivez sur Apple Podcast, je vous invite à prendre quelques minutes, c'est pas très long, à mettre 5 étoiles sur le podcast de Monsieur Joe. Ça permettra à d'autres auditeurs de nous trouver plus facilement. Merci à vous. Prenez ces quelques secondes, quelques minutes. Pour remplir cela, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne coûte rien. Et nous, ça nous aide beaucoup à ressortir sur les listes et à peut-être apporter ce partage à d'autres auditeurs qui ont envie de se lancer. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Ah, et j'oublie tout le temps, ces épisodes sont peu à peu mis aussi sur notre channel sur YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci.